bougez les pieds, Jamel, levez les bras, bougez les jambes,
ma levez les mains, le match,
bougez les pieds, levez les bras, bougez les jambes,
Son Excellence Joseph Anoblé,
les jambes,
El Massama,
les jambes, faut décaler, faut couper, faut décaler.
Radio de la paix, il est 12h. Le journal de midi, Marthe Kakou.
Nous sommes le mardi 4 juillet 2023, tout de suite les faits majeurs. Sécurisation du foncier rural, immatriculation des parcelles en Côte d'Ivoire. Le délai a été prorogé de 2023 à 2033 à travers un nouveau décret, ce qui donne aux populations 10 ans pour se faire établir les papiers de leur terre. Plus de précisions dans quelques minutes avec le responsable de la communication de l'AFOR. Lutte contre l'insécurité sur les voies publiques. Le coup d'envoi de la 6e édition de la semaine de la sécurité routière a été donné hier à Abidjan. Elle se déroule du 3 au 10 juillet et est marquée notamment par des actions de sensibilisation et de répression pour les cas de manquement grave à la réglementation. Situation politique au Sénégal. Le président Macky Sall annonce qu'il ne sera pas candidat à sa réélection en 2024. Et l'invité de la rédaction pour refermer cette édition est le directeur de la CAPEC, professeur Alban Auré, reviendra sur le récent sommet international relatif au nouveau pacte financier mondial qui s'est tenu à Paris. Voilà pour l'ossature. Bonjour à tous. Foncier rural en Côte d'Ivoire, le délai de l'immatriculation des parcelles a été repoussé de 2023 à 2033 selon un communiqué signé du directeur général de l'agence foncière rurale sur les raisons de cette décision et de ses implications. Écoutez plutôt les explications de Cyril Seti, responsable de la communication à l'AFOR.
Les importantes innovations du nouveau décret sont les suivantes. Le délai pour se faire établir son titre foncier et le coût du titre foncier qui change. Donc, au niveau du délai, initialement, le délai de 3 ans pour effectuer l'immatriculation, c'est-à-dire pour obtenir son titre foncier, est désormais prorogé à 10 ans pour les détenteurs de certificat foncier. Si le titulaire du certificat foncier n'a pas fait son titre foncier à l'échéance des 3 ans, il perdait ses droits coutumiers au profit de l'État. En d'autres termes, il perdait sa parcelle ou sa terre au profit de l'État. Avec ce décret, à l'échéance des 10 ans, le détenteur du certificat foncier conserve ses droits sur la terre.
Après les 10 ans, il est toujours propriétaire de sa terre.
Effectivement, ça c'est un détail également qu'il faut souligner. Après les 10 ans, il est toujours propriétaire de sa terre. Avant ce décret, la procédure était identique, qu'on soit dans le domaine urbain ou dans le domaine rural. Avant la parcelle, pour obtenir son titre foncier, il fallait payer. C'était calculé au mètre carré. Mais en zone rurale, on parle en dizaines d'hectares dorénavant. Au niveau du domaine foncier rural, les choses ne se calculeront plus en mètre carré, mais en hectare. 300 francs par hectare.
Cyril Seti, responsable de la communication à l'AFOR, l'agence foncière rurale, il était en ligne avec Constant Maïli. On continue avec la semaine nationale de la sécurité routière. La 6e édition se tient du 3 au 10 juillet 2023. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu hier au siège de l'Office de sécurité routière à Abidjan. Junior Cardin pour plus de détails.
La présente édition sera marquée par des actions de sensibilisation, mais aussi de répression pour les cas de manquement grave à la réglementation, a averti Étienne Kouakou, conseiller technique du ministre des Transports.
L'Office de sécurité routière, dont la mission est la mise en œuvre de tous les moyens destinés à accroître la sécurité des usagers sur la route, en assure la conduite en collaboration avec l'ensemble des services des directions régionales et départementales du ministère des Transports.
Étienne Kouakou, tout en invitant les usagers de la route à faire attention, est revenu encore une fois sur les principaux axes accidentogènes du pays.
Il y a l'axe Abidjan-Aboisseau-Noué, l'axe Abidjan-Abangourou, l'axe Abidjan-Yamoussoukro-Boaké-Wangolo, l'axe Yamoussoukro-Boaflé-Daloa.
Les infractions les plus récurrentes à traquer restent pratiquement les mêmes.
Celles-ci concernent les excès de vitesse, l'usage du téléphone en situation de conduite, la conduite en état d'ivresse, le mauvais état des pneumatiques et des plaques d'immatriculation inexistantes, illisibles ou fantaisistes.
Au lancement de cette édition, il y avait la présence d'invités spéciaux, entre autres le président du Conseil national de la jeunesse et un représentant des organisations de consommateurs. Ce dernier est Soumaro Benfali.
Il y a des vendeurs, des vendeuses, des boissons alcoolisées autour de nos gares routières où les chauffeurs sont régulièrement approvisionnés avant de prendre la direction. C'est un phénomène qu'il faut combattre.
Cette édition mettra l'accent sur les deux roues et les déplacements interurbains. En outre, la caravane de sécurité sera déployée à Guitry.
À San Pedro, le coup d'envoi a été donné hier au rond-point de la gare routière. Cette activité pilotée par la direction régionale des transports en collaboration avec la cellule opérationnelle composée de la gendarmerie et de la police nationale vise aussi à réduire les accidents de la route. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le président de l'Autorité nationale de la presse a invité les correspondants régionaux de presse exerçant à Boaké à demeurer objectifs et dignes dans l'exercice de leur métier malgré leurs besoins. C'était à l'occasion de l'atelier de renforcement de capacité dénommé ANP Academy, dont la 19e session s'est tenue récemment dans la ville au profit des localiers. On écoute les explications de Samba Kone.
En tant que correspondant de presse, vous devez vous situer à égale distance de tous les acteurs et de toutes les sources d'informations de votre localité, si tant est que vous voulez être des journalistes professionnels et dignes de ce nom. Vous ne pouvez pas être en copinage permanent avec une source, fût-elle l'autorité, et dire que vous allez faire preuve de crédibilité. La main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. Et quand on dit merci dans ces conditions-là, je pense humblement qu'on y perd un peu de sa crédibilité. C'est difficile, on peut être pauvre et digne. Et quand on choisit de faire ce métier au service de l'intérêt général, nous devons demeurer dignes, malgré les difficultés d'exercice de notre métier. Nous reviendrons à Boaké, nous reviendrons vous retrouver pour d'autres séances, si Dieu le veut, parce que vous avez besoin de renforcement de capacités. Parce que quand on fait ce métier, c'est tous les jours qu'on en apprend. Tantôt, nous avons appris les termes juridiques, un prévenu, une mise en cause. Et aujourd'hui, en France, on parle de mise en examen. Si vous voulez vous former, c'est vrai qu'il y a des structures, on peut créer des cadres formels, mais vous pouvez vous auto-former. Et une des premières questions que vous devez vous poser à chaque fois qu'une source vous apporte une information, c'est de savoir quel est l'intérêt de cette source pour que l'information soit connue. Quand vous arrivez à répondre à cette question-là, vous saurez si la source est de bonne foi ou si la source tend à vous manipuler.
C'était Samba Kone, le président de l'ANP, l'Autorité nationale de la presse. Il était au micro de Joseph Assali, notre correspondant régional dans le Gbeke. Baccalauréat session 2023, les épreuves écrites se déroulent dans la sérénité dans le Haut-Sassandra. À la préfecture de Daloa, le secrétaire général 1 a procédé au lancement des compositions dans un établissement de la ville. Il était en compagnie du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Jean-Noël Kwame est allé constater sur place le déroulement de l'examen.
Au terme des différentes visites dans les centres d'examen, le secrétaire général de préfecture de Daloa, Yaya Bamba, a demandé à tous les acteurs de tourner le dos à la fraude.
Les conditions sécuritaires sont réunies aux candidats, restez sereins. Je leur ai dit de ne pas tricher, aux examinateurs de ne pas tenter la fraude. Nous serons exigeants parce qu'il nous faut des Ivoiriens de qualité qui puissent compétir à l'international. L'année 2023 a été dédiée à la jeunesse. Donc nous attendons de la jeunesse qu'elle donne le meilleur d'elle-même.
Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Ian Georges, a également insisté sur les objectifs de qualité attendus par la ministre.
Le message consiste à faire des examens propres, à revenir à la normalité. La fraude n'amène nulle part. Bonne chance à tous les candidats et que les résultats soient meilleurs cette année.
Avant le démarrage des épreuves, quelques candidats se disent confiants malgré les inquiétudes.
À cas Cyrus, les préparations n'ont pas été vraiment faciles. Il y a un peu de peur parce que on peut tomber aussi un sujet que vraiment on a un peu oublié et c'est confiant, tout va bien se passer.
Quand je m'arrive aussi, les matières comme la philo m'inquiètent un peu. Je suis un peu stressée.
Grâce à Andrea, la matière qui fait la plus peur même, c'est la philosophie. C'est ça même, on craint beaucoup.
Traoré Moussa, il faut faire attention pour ne pas se faire prendre par la police. Il faut éviter la tricherie.
15 706 candidats repartis dans 27 centres d'examen prennent part à ces épreuves écrites du baccalauréat dans le Haut-Sassandra. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
À Divo, dans la région du Lodjiboa, plus de 13 000 candidats, toutes séries confondues, affrontent ces épreuves écrites. Un accent particulier a été mis sur la lutte contre la fraude et la tricherie des détenteurs ont des détecteurs ont été mis à la disposition des présidents de jury de centre pour traquer les téléphones portables. En plus, aucun cartable, blouson ou trousse ou pack n'est autorisé dans les centres d'examen. Notre correspondant régional, Abel César Cassin, s'est rendu hier au démarrage des épreuves dans un établissement de Divo. Il fait revivre ce qu'il a vu et entendu.
Sous la fine pluie, les détecteurs des deux membres du secrétariat commis à cette tâche n'arrêtent pas de sonner au contact des pièces de monnaie, des boucles de ceinture et des boutons en fer cachés sous les uniformes des candidats. Ceux qui ont des blousons, des sacs à dos, des trousses opaques sont priés de s'en débarrasser avant d'avoir accès aux salles de composition. L'enseignant de physique Cramo Ferdinand le fait avec humour.
Quand ils arrivent ici, là, si on ne fait pas de telle sorte qu'ils soient détendus, le stress va continuer dans les salles. Même à l'oral, on a vu ça. Les demoiselles, ici, faites vite.
Les conséquences de la fraude. Le secrétaire général de préfecture, Guéhi Afoué-Jeannette, en a parlé aux candidats avant le démarrage des épreuves.
Une chose que vous ne devez pas toucher, vous ne devez pas vraiment vous jouer avec, c'est la fraude. Ne cherchez pas à tricher. Parce que si vous trichez, vous n'irez pas à l'université. Si vous trichez, vous ne serez pas des futurs étudiants. Or, c'est le rêve de tout élève, être étudiant.
Le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Divo ajoute d'autres détails. Traoré Enza.
Toute possibilité où on peut passer pour tricher, en tout cas nous, on met l'accent dessus, on bouge. Les détecteurs, il y en a suffisamment. Et les présidents du jury, en venant, on leur a donné ceux des détecteurs. Donc, je suppose même que par cent, il peut y avoir deux ou trois.
Le Lodjibois compte plus de 12 000 candidats au bac général et 700 au bac scientifique qui composent dans une vingtaine de centres pour cette session. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Actualité au Sénégal avec la fin du suspense. Macky Sall renonce à se présenter à la présidentielle de 2024 et a brigué un troisième mandat controversé à la tête du pays. Le chef de l'État en a fait l'annonce lors d'un discours hier soir en direct sur la télévision publique RTS. Cette décision pourrait apaiser la situation alors que le climat était extrêmement tendu ces dernières semaines, alors que son principal opposant Ousmane Sonko, condamné il y a un mois à 2 ans de prison, a appelé les Sénégalais, je cite, à sortir massivement les prochains jours dans les rues du pays. Pour l'heure, on écoute le président sénégalais Macky Sall.
Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. En effet, depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1, C-2016, du 12 février 2016. Je sais que cette décision de ne pas être candidat surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal, qui trouve de plus en plus ses marques. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection.
C'était Macky Sall, le président sortant du Sénégal. La transition au Mali, à la demande des autorités, le Conseil de sécurité de l'ONU a mis officiellement fin le 30 juin dernier à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Une fermeture qui pourrait avoir des conséquences sécuritaires pour le pays et la sous-région, avertit Fayrama Rodrigue Koné, chef du projet Sahel de l'Institut d'études de sécurité. Selon lui, ce retrait de la MINUSMA pourrait offrir, entre autres risques, une plus grande surface d'action groupe terroriste. Nous l'écoutons.
Ce retrait pourrait avoir un ensemble de conséquences si le vide n'est pas réellement occupé par l'État malien, si sa stratégie qu'elle définit n'arrive pas à réellement prendre en compte un ensemble de défis sécuritaires qui sont notamment en premier la question des groupes armés du Nord. Vous savez qu'il y a un accord de paix qui a été tissé depuis 2013 pour mettre fin à cette crise qui est l'élément de départ de cette crise qui s'est ensuite transformée en une crise multidimensionnelle intégrant des aspects également de terrorisme et des conflits communautaires. Donc, cet accord-là reste quelque chose d'important. La MINUSMA était, je dirais, un garant plus ou moins de cet accord. Deuxième élément, une reprise du combat avec les groupes armés pourrait avoir une conséquence directe sur la lutte contre le terrorisme, d'autant plus que ça pourrait donner un appel d'air aux groupes djihadistes du fait que la MINUSMA ne soit pas présente. Ça leur permettrait de circuler sur des champs assez vastes. Il y a des risques encore au point de vue humanitaire. Vous savez que la MINUSMA était une mission de stabilisation qui jouait sur des questions humanitaires, des actions de développement, et appuyer même la multitude des ONG qui prennent en compte les près de 8,8 millions de Maliens qui sont en situation de besoin humanitaire.
Fayrama Rodrigue Kone, chef du projet Sahel de l'Institut d'études de sécurité. À présent, l'invité de la rédaction, c'est le directeur de la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES. Professeur Alban Aouré revient sur le récent sommet international relatif au nouveau pacte financier mondial, sommet qui s'est tenu du 22 au 23 juin 2023 à Paris en France. Quelles pourraient être les retombées de cette rencontre pour les pays africains? Pour en savoir plus, je vous propose de suivre cet entretien conduit par Jean-Claude Comé.
Professeur Alban Aouré, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean-Claude Comé.
La capitale française, Paris, a accueilli pendant 2 jours un événement mondial. Il s'agit du sommet pour un nouveau pacte financier international. Alors, un tel sommet, quel est son enjeu, selon vous?
Un tel sommet, parce que aujourd'hui, nous sommes dans un contexte très difficile de pénurie du financement. Pénurie du financement, particulièrement pour les pays en développement. Et cette pénurie du financement est liée à plusieurs facteurs conjoncturels, notamment récents. Nous avons l'inflation mondiale consécutivement à la crise ukrainienne. Nous avons également les effets de long terme de la COVID-19. Nous avons aussi les questions de la hausse des taux d'intérêt liés notamment à cette inflation-là. Et bien sûr, il faut faire face à cette pénurie du financement. Et ce sommet donc est bienvenu pour aider les pays africains, les pays du Sud, à pouvoir s'accorder avec les pays du Nord sur de nouveaux mécanismes de financement pour, je dirais, juguler les inégalités croissantes liées à ces crises, à ces chocs exogènes récents que nous avons observés, mais aussi pour faire face à la problématique du changement climatique, à la question de la protection de la biodiversité.
Alors, l'accent sur le terme « nouveau pacte financier », pourquoi, selon vous, il faut revoir donc ce pacte-là. Quelle est la situation actuelle?
Mais la situation actuelle concernant le pacte financier, nous avons bien sûr les questions d'aide publique au développement, donc l'appui des partenaires internationaux aux pays en développement notamment. Donc nous avons l'aide publique au développement, nous avons la mobilisation des ressources sur les marchés financiers internationaux. Vous avez tout ce qui est Eurobond avec les pays africains. Donc ça, c'est le pacte financier qui existe. Et maintenant, on se rend bien compte qu'il est très difficile de mobiliser sur les marchés financiers avec la hausse des taux d'intérêt. Mmh. Voyez, et surtout avec tous les risques dans les pays consécutivement aux crises récentes. Et bien sûr, nous avons ces pays eux-mêmes qui ont des difficultés de mobilisation des ressources domestiques. Je vais parler des pays en développement. Mmh. Donc voilà une situation interne des pays qui est très complexe. Comment arriver à créer ce qu'on appelle l'espace budgétaire, mobiliser suffisamment de ressources domestiques? On est coincé par les crises. On est coincé au niveau international parce que les ressources ne sont plus suffisantes. Les pays donateurs font face à des besoins de financement énormes avec les crises qui existent, hein, la crise alimentaire ou l'inflation sur les céréales. Également, nous avons le financement de tout le soutien mondial qu'il y a pour notamment faire face à la crise ukrainienne. Mm-hmm. Donc, nous avons tous ces aspects-là qui font qu'il faut repenser, les mécanismes de financement avec cette crise, l'endettement, parce que beaucoup de pays en développement connaissent une situation de surendettement élevée, pour repenser les mécanismes, pour voir comment continuer de financer les pays en développement dans un contexte mondial de pénurie du financement.
Pénurie voilà. du financement, vous l'avez dit, hein. Que peuvent espérer justement ces pays du Sud de ce nouveau pacte financier international?
Mais il y a plusieurs pistes de solutions qui sont envisagées. Par exemple, comment intensifier les financements concessionnels et publics, par exemple. Et les questions du climat et du développement. Comment mieux intégrer les questions de changement climatique dans les mécanismes de financement? Ça aussi, c'est extrêmement important, les financements verts, ainsi de suite. Voilà, parce que plusieurs pays sont des pays vulnérables face à ces changements climatiques qui affectent des secteurs de production comme le secteur agricole, par exemple, avec la hausse des températures, tous les changements dans la pluviométrie, ainsi de suite. Et un autre point, c'est le rôle des financements privés. Voilà, les financements privés, comment mieux mobiliser ces financements privés, comment mieux contrer la hausse des taux d'intérêt, ainsi de suite. Ça aussi, c'est des réflexions importantes. Mm-hmm. Et bien sûr, la question d'asseoir ces financements-là sur une vision d'accélération de l'émergence des pays africains, par exemple. Alors, comment avoir des ressources additionnelles pour financer son développement, faire face à ces chocs? Je pense que les pays africains ont beaucoup à gagner là-dedans.
Pourquoi ce ne serait pas des occasions aussi pour les Africains de réfléchir à une nouvelle stratégie de mobilisation interne donc de leurs ressources?
C'est aussi un point extrêmement important. Comment nous arrivons, notamment sur les questions du secteur informel, qui est près de 90% des emplois, une contribution de l'ordre de 30 à 40% des PIB des pays d'Afrique subsaharienne, favoriser le civisme fiscal dans nos États? Voilà, comment mieux maîtriser la dépense publique, parce qu'il faut aussi de l'efficacité dans la dépense publique. Comment mieux gérer les questions de la dette dans nos États? Ce sont des éléments importants et il y a des réflexions là-dessus. Moi, je peux vous le dire pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et tout cela, ça devrait entraîner des projets et programmes et ça devrait permettre d'aller de l'avant en termes de mobilisation des ressources domestiques. Surtout que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons une pression fiscale assez faible.
Professeur Abban Auré, je vous remercie pour ces éclairages.
Merci bien, M. Jean-Claude Comé.
À l'invité du jour est le directeur de la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, enseignant en économie à l'université Félix Oufou-Boigny à Cocody. Il se prêtait aux questions de Jean-Claude Comé. C'est sur cette interview que se referme l'édition de la mi-journée pour conclure le rappel de l'essentiel. Sécurisation du foncier rural, immatriculation des parcelles en Côte d'Ivoire. Le délai a été prorogé de 2023 à 2033 à travers un nouveau décret, ce qui donne aux populations 10 ans pour se faire établir les papiers de leur terre, a indiqué le responsable de la communication de l'AFOR, l'agence foncière rurale. Merci de votre attention. Je serai avec vous à 15h pour le flash sur Radio de la Paix. Mais pour l'heure, voici la revue de presse de Francis Cassi.
Bonjour à tous. Commençons notre revue de presse de ce mardi par l'alliance PDCI-PPACI, sur laquelle des journaux se divisent. D'abord, ceux qui la voient pas trop sûrs, comme le Patriote qui écrit «